Sur Radio Grand Ciel, en direct de la maison diocésaine de la Visitation à Chartres, à l'occasion des 30 ans de notre radio. Tout de suite, nous retrouvons Christiane Blain, une voix bien connue de notre studio Nogenté, et elle reçoit Madame Hamelin.
Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Simon. Au micro, donc, Christiane Blain. Je devais recevoir aujourd'hui Harold Huvard, maire de Nogent-le-Rotrou, mais un cas de force majeure l'a empêché de venir à Chartres. C'est donc au pied levé que Gwenaëlle Hamelin a bien voulu le remplacer. Elle est directrice du château des Comtes du Perche et elle avait évoqué pour nous les améliorations qui ont été réalisées sur le plan touristique à Nogent-le-Rotrou. Madame la directrice de Château Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou, bonjour. Nous sommes très heureux que vous ayez pu venir et je dois dire que j'ajoute que vous avez fait très vite pour arriver dans notre studio. Alors, ce château des Comtes du Perche, qui reçoit maintenant de plus en plus de touristes, il y a eu des changements. Racontez-nous.
Bonjour à toutes et à tous. Ce château, effectivement millénaire, abrite en son sein un musée qui, jusqu'en 2019, mai 2019, conservait, présentait des collections d'art et traditions populaires, donc la vie dans le Perche au XIXe siècle. Il se trouve que le musée, ce premier musée inauguré en 1972, avait quelque peu vieilli et ne se trouvait plus en adéquation avec l'histoire du site. Nos visiteurs pouvaient avoir un léger sentiment de frustration que nous pouvions partager et, aussi avec eux. Rien n'explicitait qui étaient les Rotrous. La fondation de la ville de Nogent-le-Rotrou, du nom de ses seigneurs, justement. Mmh. Et évidemment, ce qu'était le Perche au niveau historique, et en quoi Nogent était le berceau de cette histoire. Et cela permettait aussi, en créant un nouveau musée, de jeter des ponts, des passerelles vers les autres sites emblématiques, importants du Perche, et de resserrer des liens et tout un réseau. Donc, depuis mai 2019, c'est désormais le musée de l'histoire du Perche. Et il faut savoir que, outre le fait que le château est classé monument historique, le musée bénéficie d'un label du Musée de France.
Alors, ce qui est très important, c'est de nous dire maintenant quels ont été, si je puis dire, les apports qui ont été faits pour que ce château devienne vraiment une merveille dans le Perche. Je dois dire qu'à chaque fois que j'y vais, des touristes de plus en plus nombreux viennent au château. Alors dites-nous, quelles sont les transformations qui ont fait que les touristes maintenant ne viennent pas à Nogent sans commencer par la visite du château? Je dis bien sans commencer, parce que nous allons voir qu'à Nogent-le-Rotrou, on peut aussi visiter d'autres lieux qui sont fort intéressants maintenant.
Et c'est exactement cela, vous l'avez parfaitement présenté. Le château se retrouve alors perché en hauteur, ça c'est pour des raisons historiques et stratégiques, au sommet de la ville, mais c'est bien son cœur, puisque c'est le point de départ de toute une déambulation. Et justement, le parcours du musée a été conçu dans cet esprit, avec 1000 ans, ce qui n'est pas mince, 1000 ans à retracer avec les points forts et des objets justement médiévaux, que ce soit des pièces de monnaie qui montrent l'importance des Rotrous, des Comtes du Perche, parce que oui, ils ont frappé monnaie.
Oui, certaines pièces ont même été trouvées à New York.
Alors, certaines pièces, oui, voilà, peuvent se trouver, avoir beaucoup circulé.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est aussi l'émission d'un musée de justement collecter, enrichir ses fonds, les valoriser pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Parce qu'évidemment, un musée, c'est, alors il y a le terme qui peut paraître très, très fort, qui est très littéraire, qui est très beau, c'est un lieu de délectation, mais c'est un lieu tout simplement de plaisir où on peut vivre une belle aventure en famille. apprendre, s'amuser, découvrir. Et il se trouve que parmi les différents points et déambulations qui sont offerts dans le musée, donc nous débutons par les retrous, en quoi ils ont été au cœur de toutes les dynasties royales, mais aussi de l'échiquier politique, puisque c'était des incontournables,
oui.
En lien avec les familles des rois d'Angleterre, des rois de Navarre, Castille, Pamplune, roi de France également, Sicile, et un lien aussi familial avec le Othon IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est vous dire, voilà, c'est un véritable rayonnement. Il y a évidemment les retrous, les fondations religieuses, et pas uniquement à nos gens le retrouvent, ça va de soi, il y en a, y compris en Angleterre, on sort de France. Par la suite, il y a un espace dans notre musée, dans notre parcours, nous empruntons des portes du temps. Voilà, il y a aussi un beau mobilier adapté.
Oui, oui.
On fait une transition avec ce qui s'est déroulé lors de la guerre de Cent Ans. Mmh. Par la suite, nous arrivons à une époque aussi très brillante qui envoie aussi vers d'autres lieux de nos gens le retrouve, qui est le temps de la Renaissance, avec les Bourbons-Condé, mais également des lendemains qui sont moins riants avec les guerres de religion. Ça, c'est notre espace de transition, guerre de religion. Puis nous arrivons au XVIIe, XVIIIe siècle, avec le duc de Sully, également fondateur du couvent des Ursulines, et pour un protestant, c'est assez remarquable. Là, il y a tout un intérêt. L'une des tours du château est consacrée aux représentations de notre château, parce que les représentations anciennes sont rares. La plus ancienne, c'est après 1624. Donc ça méritait bien de le découvrir, de voir comment les artistes au XIXe siècle se sont emparés du site, avec plus ou moins de licence artistique. Le donjon peut être assez facétieux. On peut le présenter comme ça. Et puis une partie économique, puisque nos gens le retrouvent, des trois villes du Perche, étaient la ville la plus peuplée. À la veille de la Révolution, à peu près 7000 habitants. Et une ville avec, on va parler de proto-industrie, notamment les étamines.
Et
essentiellement, oui. Voilà, un grand marché. Il y a eu des capitaines d'industrie. Il y a eu celui qu'on appelait le millionnaire qui a affrété un navire qui s'appelait le Nogent le Retrou, qui malheureusement a coulé en mer de Chine. Mais c'est pour vous donner, ouais, effectivement, une idée. Ceci est évoqué. En même temps aussi d'une manière qui se veut ludique malgré tout, car toujours accessible. C'est un musée s'adresse à tous les publics. C'est important. Et puis la deuxième salle de ce musée évoque la vie, après une transition en Révolution française, la vie dans le Perche, très rapidement l'économie, avec un regard plutôt par les artistes. Alors que ce soit le cheval percheron, notamment grâce à Rosa Bonheur, mais pas uniquement. Que ce soit Camille Gatté, qui est un sculpteur, qui est méconnu parce qu'il est décédé à 44 ans, donc très jeune, mais qui était fondateur de journal.
Il a quand même une rue.
Il a une rue. Ses parents ont créé un kiosque pour honorer sa mémoire. Donc oui. Ça, on pourra y revenir plus tard dans la déambulation de nos gens. Et puis, un artiste qui est connu des anglo-saxons, qui est Camille Sylvie. C'est un photographe. C'est un pionnier de la photographie. Nadar l'a qualifié de génie.
Oui, nous avons fait une émission d'ailleurs.
Spécialement
parce que, on va en parler tout à l'heure, mais il y a eu aussi une déambulation pour voir ces photographies.
Oui, exactement. Et donc, on a souhaité présenter des clichés originaux de 1858. Désormais, ce sera des facsimilés avec une explication en disant, bien sûr, nous devons les conserver. Ce sont des tirages très fragiles. Parmi les peintres, Louis Moulin, qui est un peintre de cour de Napoléon III. Donc il l'a accompagné absolument partout, que ce soit à Villégiature, que ce soit à Biarritz, par exemple, mais également dans les différentes campagnes, Italie, ou des voyages en Algérie. Et donc on a vraiment une idée par moment de carnet de voyage un peu croqué comme de la croix. Et enfin, une artiste moins connue, qui est Clara Filleul. Et il se trouve qu'au XIXe siècle, elle a formé les artistes du Chili, puisqu'elle est partie rejoindre son maître, son professeur, au Chili. Elle s'est rendue en terre de feu. On a un dessin qui l'atteste. Elle a croqué sur le vif les Indiens, les Phugiens. Donc voilà, des artistes pas connus, parce que pas impressionnistes, je dirais.
Mais qui vont le devenir.
Mais oui, qui méritent largement un rayonnement. Et ils ont porté haut les couleurs du Perche. Donc c'était bien pour montrer ce territoire qui était brillant au Moyen-Âge, mais également jusqu'au 19e et au 20e siècle, avec d'autres innovations pour l'histoire plus contemporaine. Et au cœur de ce parcours, il y a tout un système de multimédia et d'écrans tactiles pour rendre la visite encore plus vivante.
Oui.
Voilà, chaque personne est acteur, et le multimédia, que ce soit film, petite douche sonore ou écran tactile, n'est pas là juste pour un effet « waouh », je dirais, entre guillemets, mais apporte vraiment du sens, permet d'avoir un discours à plusieurs niveaux, et permet d'avoir des agrandissements, notamment des sceaux ou des pièces de monnaie, et de voir les monnaies à vers, revers. Et c'est connecté également à une généalogie. Ça permet de replacer toutes les personnes historiques et de bien comprendre d'une manière aisée les connexions. Parce qu'on peut se perdre en généalogie facilement.
Oui, je dois dire que les enfants aiment beaucoup aussi visiter ce château. C'est ça qui est aussi un point très fort. C'est que personne ne s'ennuie pendant cette visite. Vous avez pris des moyens, vous le disiez, qui permettent vraiment de tout comprendre, si je puis dire.
Voilà, c'était le but de mettre un petit peu aussi des toiles dans les yeux pour les enfants, mais les adultes aussi, parce que qu'on est aussi des grands-enfants, quelque part. Et que ça s'adresse autant, vraiment, j'insiste, aux néophytes qu'aux spécialistes. Chacun aura son compte. Et puis, il y a eu le désir de la part de la ville de Nogent-le-Rotrou et d'Harold Duvar de plonger vraiment plus en avant encore dans le numérique et la réalité virtuelle augmentée, mais une fois de plus en apportant un vrai plus au discours et en mettant de la chair, de la matière sur les pierres.
Oui.
Je pense que vous avez testé vous-même les tablettes ou le casque 3D.
Oui, c'est merveilleux. J'ajoute aussi qu'il y a des terrasses et des jardins qui sont maintenant restaurés, puisque ce sont les plantes du Moyen-Âge.
Exactement, il a été choisi de redévelopper des jardins, alors d'interprétation, Moyen-Âge, Renaissance, puisque dans la basse-cour, il est tout à fait logique de penser qu'il y a eu quand même des jardins, vraisemblablement jardins au simple, plantes médicinales, quelques plantes aussi aromatiques. Donc c'est pour ça que nous parlons de jardins d'interprétation, parce que se retrouvent ensemble des plantes qui n'auraient pas été forcément sur le même lieu à cohabiter ensemble. Et donc avec le donjon millénaire, un des plus anciens et des plus hauts de France, ça nous permet d'avoir un bel ensemble, et on a toutes les périodes historiques, et avec les restitutions grâce aussi à la tablette.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Toujours avec Gwenaëlle Hamelin, et nous venons de visiter le très beau château de Nogent-le-Rotrou. Alors, cette promenade à travers Nogent-le-Rotrou, elle commence par le château, mais aussi elle va se poursuivre à travers des chemins qui sont absolument nouveaux et qui nous permettent d'aller du château jusqu'au centre de la ville. Et cette promenade par des ruelles, par des jardins, eh bien, j'aimerais que vous nous montriez, que vous expliquiez à nos auditeurs comment du château on peut arriver en pleine ville en se promenant à travers de très beaux jardins. Je dirais presque paradisiaque.
C'est vrai, je ne dirais pas le contraire. Pour cette déambulation, pour rejoindre le cœur de ville de Nogent-le-Rotrou, il faut emprunter, en quittant le château, le parc d'Auplay, donc une acquisition de la ville de Nogent-le-Rotrou, d'une partie d'un très vaste jardin qui appartenait à la famille d'Auplay, une famille d'imprimeurs nogentais, qui imprimait d'ailleurs pour les éditions Guillaume Budet, oui. Les belles lettres. Mmh. Et donc, c'est une famille qui était là depuis au moins le 18e siècle. Donc, on retrouve toujours des éléments d'histoire. C'est un très beau parc avec des arbres remarquables. Et vous avez une très belle descente vers le centre-ville. Et vous arrivez, en déambulant, au niveau de l'Hôtel Dieu, qui forme un tout avec le mausolée du duc de Sully et l'actuel... église Notre-Dame. Et vous arrivez, en fait, vous pouvez emprunter la cour d'honneur de l'hôtel Dieu.
Oui, parce que justement, cette arrivée dans la cour d'honneur a été restaurée et c'est vraiment très joli. Et là, on s'aperçoit que Sully, qui était protestant, a son mausolée à l'extérieur de l'église de Nogent-le-Rotrou. Alors, j'aime beaucoup cet endroit raconté.
Alors, en réalité, le duc de Sully, principal ministre d'Henri IV, a été marquis de Nogent-le-Rotrou. Son droit seigneurial lui permettait d'être inhumé à l'intérieur de la chapelle Saint-Jacques de l'Aumône, qui a été fondée par Rotrou IV. Donc, nous sommes à la fin du XIIe siècle, donc c'est juste avant de partir en croisade. Aujourd'hui, cette chapelle Saint-Jacques de l'Aumône est devenue l'église paroissiale Notre-Dame. Donc Sully pouvait avoir le droit seigneurial lui permettant d'être inhumé à l'intérieur. Mais comme Christiane Milin le soulignait très justement, il est protestant. Donc des négociations sont menées, et notamment par son épouse Rachel de Cochefilet, qui gérait beaucoup les affaires de son mari. Le duc de Sully avait toute confiance en elle. Et petite parenthèse, elle est d'origine percheronne. Voilà, je referme la parenthèse.
Soyons chauvins.
Oui, voilà, ma foi. Voilà, une famille écossaise qui a choisi de s'installer en France, oui. À l'époque. Et donc des tractations sont menées. Et il y a une acquisition d'une parcelle sur laquelle sera élevé leur mausolée. Et c'est un monument exceptionnel.
C'est superbe. Je veux dire que c'est quand assez on entre, on est sous l'empreinte, vraiment, on adore, parce que c'est très, très beau.
C'est très émouvant, oui. Aussi, et effectivement, c'est très beau. C'est un mausolée en marbre, où le duc et la duchesse sont présentés en orant. Donc, c'est aussi un témoignage fort de l'esprit religieux de la période. Et il a été épargné par les révolutionnaires, et le monument est resté à Nogent-le-Rotrou et n'a pas été déménagé aux petits Augustins pour le musée que les révolutionnaires avaient ouvert. Donc c'est un lieu magnifique qui est très bien valorisé, qui est restauré et qui, dans les prochains projets, prochaines réalisations là, qui vont arriver, c'est en cours, va aussi faire le lien avec le trésor de l'église Notre-Dame.
Oui, alors parlons de ce trésor, parce que l'église Notre-Dame a vraiment ce trésor qui est magnifique. Je pense à la crèche.
Oui.
Qui est remarquable.
Alors, cette nativité crèche dite des Bourbons-Condé, oui. Il se trouve que c'est Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui est le cousin germain du roi Henri IV. Il fut seigneur de Nogent. Les terres ont même été élevées en duché Péri à un moment. Pour la naissance de son fils, vers 1610, et afin de célébrer l'événement, il commande à des artistes une crèche nativité en terre cuite polychrome. Et c'est un ensemble absolument exceptionnel, puisque Charles de Soissons s'est représenté, et il a également fait représenter son cousin Henri IV. Or, il est assez rare qu'un roi soit représenté en saint. Oui, c'est déjà arrivé pour notamment Louis IX, mais Henri IV, là, est représenté sous les traits du roi David. Alors, Henri IV, physiquement, on le reconnaît très, très bien.
Ah oui, c'est vrai.
Il a une couronne royale fermée, donc comme ça on sait que c'est le roi de France. Et son cousin, Charles de Soissons, a une couronne ouverte, couronne comtale. Et lui aussi sous les traits d'un roi. Donc voilà, je vous invite à venir visiter, j'en dirai pas plus, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel comme nativité. Elle est explicitée puisqu'il y a des parcours qui ont été avec des panneaux, des totems en ville, avec des explications qui permettent justement de poursuivre la promenade dans nos gens et d'avoir des éléments historiques.
Alors cette ville ancrée dans le Perche vraiment connaît des grands bouleversements aussi, puisque maintenant la place va être complètement transformée. On peut peut-être en dire quelques mots sur ce qui va se passer dans cette place qui est la place centrale de Nogent-le-Rotrou.
Alors la place Saint-Paul va faire l'objet de travaux, de nouveaux sens de circulation, et avec une connexion aussi avec la rue de Sully.
Voilà,
et
c'est
il
ça.
Est programmé, projeté que la rue de Sully devienne dans une partie piétonnière. Ce qui permettra aux personnes, aux piétons, de poser les voitures au niveau des parkings de la place centrale et de pouvoir circuler à pied et de profiter des jardins, d'un parking ombragé et d'un accès plus confortable et plus, ma foi, plus sécurisé au niveau de la cour d'honneur de l'Hôtel Dieu. Un bel accès, on pourra en profiter d'un bel accès de cette porte en bois qui est gigantesque, avec le fronton porté par deux colonnes à l'italienne et un fronton où il y avait les armes du duc de Sully, qui ont été restaurées au XIXe siècle par Camille Gatté.
Voilà. Alors, Nogent-le-Rotrou comporte encore beaucoup de choses qui vont faire plaisir aux touristes. Alors moi, je pense au collège, à l'ancien collège Arsène Meunier. Dites-nous ce qui va se passer, parce que ce que j'aime, c'est voir les transformations sur le plan historique qui sont faites en ce moment à Nogent-le-Rotrou.
Alors le collège Arsène Meunier, alors pour les Nogentais, ça a été longtemps le collège et lycée Rémi Bellot, donc il est devenu collège à Arsène Meunier. Donc en fait, il prend place sur un site historique qui est l'abbaye Saint-Denis, puis prieuré Saint-Denis, puisqu'elle a été donnée ensuite à l'ordre clunisien. Et comme on sait, il n'y a qu'une seule maison mère à Cluny, ensuite ce sont des prieurés. Cette abbaye, à l'origine, a été fondée par Geoffroy III, seigneur de Nogent et vicomte de Châteaudun, un peu pour le rachat de ses péchés. Parce qu'à un moment, il a été excommunié par Fulbert, puisqu'il attaquait les terres de l'évêque de Chartres.
Le fameux Fulbert de Chartres.
Pour ça, je me permets de parler de... Voilà, nous sommes à Chartres. Donc, bon, il est rentré dans le rang, parce qu'une excommunication n'est pas chose très, très délicate. Et il a mené quand même une politique royale, Geoffroy III, puisque c'est lui qui a fait bâtir le donjon du XIe siècle,
oui.
Et en même temps une abbaye. Donc ça vous indique le degré de puissance, de fortune quand même, des Rotrou qui ne sont pas encore comte du Perche. Mais on va dire ça ne serait tardé à l'époque. Et voilà, grande, très belle abbaye, puis prieuré, qui en ordre de taille à l'époque se place derrière la cathédrale de Chartres. Pour vous donner une idée du volume, du transept, des chœurs, des absidioles.
Magnifique.
C'est vraiment un très beau site, avec des chapiteaux romans. Donc certains sont exposés au musée. Donc à nouveau, vous retrouvez ce lien, puisque le musée renvoie vers des lieux et de l'habitat de nos gens civils ou religieux. Et ce site est aussi connecté à la maison dite du Bailli, qui donne sur la rue. C'est une maison du XVIe siècle, avec un cartouche qui porte un jeu de mots.
Ah oui, maison... alors j'adore ouais. Ce cartouche.
Durant février de Pierre Blanche, je fus faite. Bah, le Bailli, c'est Pierre Durand. Et son épouse, c'est Blanche Février.
Oui.
Voilà. Et donc, Pierre Durand était un très fin lettré de la Renaissance. Il y a un projet de la part de la ville de Nogent-le-Rotrou, c'est de reprendre la pleine possession, dont elle est en partie propriétaire, de cet ensemble et d'y installer des projets culturels. Donc là, c'est en cours pour voilà, compléter cette offre à la fois culturelle, mais aussi sauvegarder et valoriser ce bâti qui est absolument exceptionnel. Et on le visite difficilement, ce qui est normal puisque c'est connecté à l'actuel collège. Oui. Alors donc l'accès est moins simple, avec une très belle salle capitulaire, oui, voûtée.
On peut aussi parler du porche Saint-Laurent, puisque on voit l'endroit où on pouvait mettre des missives aux moines.
Oui.
C'est un très bel endroit aussi.
C'est ce qu'on appelle en architecture une tour-porte, puisque c'est une entrée qui est surmontée d'un étage. Donc il y a une très belle arcature. Elle relie donc le prieuré, elle le fermait, elle le relie à l'église Saint-Laurent, puisque le prieur avait le droit de surveiller comment était célébrée la messe. Et quant à la petite boîte aux lettres, entre guillemets, elle a une réputation un peu particulière, parce qu'elle pouvait aussi servir de délation entre chrétiens, entre mauvais chrétiens, bons chrétiens. Enfin bon, ça pouvait être parfois des petits règlements de compte, mais pas que, c'est ce qui a été un petit peu retenu.
Alors justement, 1021, c'est une date importante. Et on va fêter le millénaire, c'est bien ça, du château.
Oui, puisque les dates du donjon, on pense qu'il est vraiment achevé autour des années 1020. Donc il y a une programmation qui va être en cours, et évidemment il va s'agir de fêter dignement cet événement et ce patrimoine nogentais et tout ce qui lui est attaché.
Alors je suis très contente qu'on parle et qu'on finisse sur ce 2021, 1000 ans d'histoire. Un grand merci à vous, Gwenaëlle Ablin, parce que vous nous avez fait vivre nos gens, et j'espère que tous nos auditeurs auront à cœur de venir dans notre ville, Nogent-le-Rotrou. Un grand merci à vous. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Gwenaëlle Ablin.
Merci à vous tous.